Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. Effectivement, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, bien sûr, ce débat de l'entre-deux-tours. Vous étiez moins nombreux qu'en 2017 à suivre ce duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. 15,6 millions de téléspectateurs. Les deux candidats, de retour sur leur terrain. Il leur reste moins de deux jours pour faire campagne. On évoquera aussi la Russie qui annonce avoir mis la main sur Mariupol et puis un mystère, celui de ses piqûres en boîte de nuit.
Juste après le journal, nos deux sujets du jour. Emmanuel Macron a-t-il gagné hier soir le débat? Et à 12h50, on vous emmène à Londres pour un anniversaire, celui de la reine Elisabeth, 96 ans aujourd'hui.
Notre question du jour sur RTL.fr. Avez-vous regardé, écouté ce débat jusqu'au bout? Vous dites non à 72%, oui à 27%. La météo, c'est avec vous Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Même programme qu'hier, beau au nord et agité au sud.
Exactement, avec des pluies soutenues entre le Roussillon et la Corse, des averses parfois orageuses sur le reste de la moitié sud. Entre la Bretagne et le sud du Jura, là on a un temps sec sous un ciel variable et puis il fait beau sur le reste de la moitié nord. Le tout sous des températures en légère hausse dans le sud-ouest, même si ça reste faible par endroits, comprise entre 12 et 18 degrés. Et printanière sur le reste du pays, de 17 à 21 degrés, 21 à Paris et Lyon.
Merci beaucoup Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
La nuit a donc été sans doute un peu courte pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Après près de 3 heures de débat hier soir, les voilà de retour sur le terrain. La candidate du Rassemblement National est dans la Somme, Marie Mollet.
Oui, on attend toujours la candidate. Un rendez-vous a été donné sur le parking d'un restaurant routier en sortie de bretelle. Marine Le Pen devrait monter au volant d'un 4 tonnes pour échanger avec les chauffeurs. Encore quelques photos pour tenter de parachever son image de candidate de l'ultra-proximité. Et il faut le dire, après le débat d'hier soir, on sent chez les équipes Le Pen qu'elle nage en pleine extase. Elle a fait l'anti-débat de 2017, exulte un conseiller. Elle a montré qu'elle était respectable. Et en plus, on n'a même pas parlé d'extrême droite, s'étonne un cadre. Hier soir, Marine Le Pen aurait donc lavé son honneur. Son camp en oublierait presque qu'il fallait aussi convaincre des électeurs. Un élu RN est beaucoup plus sévère. C'est un débat pour rien, dit-il. Elle a été très gentille, trop gentille. Et ça ne changera rien dans les urnes. Mais dit-il, au moins cette fois-ci, elle n'aura pas perdu d'électeurs.
Marie Mollet, en direct de la Somme pour RTL. Emmanuel Macron, lui, a choisi la Seine-Saint-Denis, William Galibert.
Oui, Saint-Denis, sous le soleil et sûrement avec le sourire. Alors officiellement, l'entourage du président se réjouit, je cite, que le débat hier soir ait permis de confronter les projets. Officieusement, on se lâche de plus en plus. Et je vais vous citer un pilier de la Macronie qui confie que, sauf cataclysme, d'après lui, c'est gagné. Alors bien sûr, c'est pas du tout cette image qu'Emmanuel Macron veut montrer au lendemain du débat. Il doit arriver dans 3 quarts d'heure ici avec du bain de foule au programme, des discussions avec des commerçants et des associations sur le thème de la rénovation urbaine. Et pour montrer qu'il fait bien campagne jusqu'au bout demain, après la banlieue, ça sera la ruralité avec une ultime sortie à Figeac dans le Lot.
William Galibert à Saint-Denis pour RTL.
Au lendemain d'un débat comme celui-ci, il y a toujours un chiffre que l'on regarde de près, c'est l'audience. Vous étiez hier soir devant votre télévision, un peu plus de 15 millions.
15,6 millions de téléspectateurs, toutes chaînes confondues. C'est moins qu'en 2017. Hein. On était à 16,5 millions. C'est aussi la plus faible audience pour un débat d'entre-deux-tours depuis qu'ils existent, depuis 1974. À Agde, les retraités de cette résidence senior ont suivi tout ça jusqu'au bout.
Elle ne peut pas trop y taper sur Poutine. C'est son trésorier. C'est Poutine qui paye sa campagne électorale.
Vous avez contracté un prêt.
Tiens, elle est KO. Il est venu avec beaucoup de munitions, là.
Monsieur Poutine à Brégançon.
Elle lui renvoie la balle. Et blablabla, et blablabla. Il vient de l'accuser de vouloir interdire le port du voile sur la voie publique. Eh bien, qu'est-ce qu'il a à redire à ça? Ça me semble tout à fait normal. D'accord que les gens aient une religion, c'est une chose, mais qu'ils ne cherchent pas à l'imposer, bordel.
Dimanche, il y aurait 8 points de différence.
Elle n'a pas été à la hauteur, parce qu'elle
ne donne pas les mesures, elle ne donne pas les moyens pour bénéficier de cela. Hein.
Elle a l'air plus satisfaite que lui.
Hein. Ouais, on va se coucher, non?
Voilà, on a pas mal débattu aussi dans cette résidence senior à Agde, au micro RTL de Gauthier Delon-Bugard. Christian Pourvert, vous vous êtes vous rendu à Saint-Sauvent, 1300 habitants dans la Vienne. Lors du premier tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés ex aequo, 220 voix chacun. Est-ce que ce débat a fait pencher la balance dans un sens ou dans un autre ?
Écoutez, c'est difficile à dire. Un constat, le débat n'a pas passionné les habitants que j'ai rencontrés place de la mairie, mais il a influencé certains, comme René, qui faisait ses courses dans l'unique épicerie du village et qui a voté blanc au premier tour.
Macron est quand même plus à la hauteur que même Le Pen, quand même.
Tony, le gérant, était devant sa télé hier soir.
Comme pour le premier tour, j'ai voté Marine Le Pen. Voilà.
Thierry reconnaît qu'il a zappé entre un film et le débat.
Mon choix est fait depuis très longtemps. J'ai toujours voté Marine et Marine, j'espère qu'elle va passer, c'est tout.
Comme tous les jeudis, Yvan, 95 ans, achète son fromage de chèvre.
Combien ?
2,65.
Hier, ce sont les passages sur l'Europe qui l'ont convaincu. Pour qui vous allez voter ?
Pour Macron, bien sûr. On ne peut être que pour la France. Une France avec les autres, pas toute seule.
Maëva a trouvé les échanges intéressants, mais elle n'a toujours pas fait son choix.
Ils ont tous les deux des bonnes idées, tous les deux des idées qui ne me plaisent pas non plus, donc aucune idée pour qui je vais voter.
Mais vous allez voter ?
Oui.
Beaucoup d'électeurs rencontrés ici attendent les législatives, ce que certains nomment déjà le troisième tour.
À Saint-Sauvant dans la Vienne, le reportage de Christian Panvert pour RTL.
Arrêtons-nous à présent sur le fond, ces quelques passes d'armes échangent autour notamment du bilan économique.
Des gens qui cherchent activement un emploi, il y en avait 5 500 000 quand vous avez été élu, il y en a 5 400 000 aujourd'hui. Donc en matière de succès sur le chômage, permettez-moi tout de même d'être dubitative.
Madame Le Pen, alors qu'on a vécu une pandémie comme on n'en avait pas vécu depuis un siècle, on a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4%.
Alors, on a mobilisé tous les services de la rédaction d'RTL pour passer au crible ces chiffres, les arguments de chacun. Anaïs Bouissou, d'abord, quand Marine Le Pen dit que le chômage n'a pas spectaculairement baissé, c'est vrai ou c'est faux ?
Ouais, tout dépend de votre méthode de calcul. Si vous prenez le nombre d'inscrits à Pôle emploi, tout confondu, hein, ceux qui n'ont aucun travail et ceux qui restent inscrits en ayant signé un contrat, ils sont 98 000 de plus en 5 ans. En revanche, si on se concentre sur les demandeurs d'emploi qu'on appelle les catégories A, les plus en difficulté, ceux qui n'ont pas du tout d'emploi, eux, leur nombre a réellement fortement baissé. On en compte 370 000 de moins en 5 ans d'après la DARES.
Et ces 600 milliards de dettes, c'est le Covid, comme dit Emmanuel Macron ?
Alors, pas uniquement, non. La dette s'est effectivement alourdie de près de 600 milliards d'euros d'après l'INSEE. Et oui, il y a un poids du Covid sur cette dette, mais entre les dépenses de l'État pour sauver les entreprises et l'argent des cotisations non entrées dans les caisses de l'État, on n'est ni sur 100% Covid, ni sur un tiers lié à la pandémie. Plus de la moitié de la dette contractée serait liée à la crise sanitaire, d'après le spécialiste François Eycal dans Libération.
Autre échange autour de la Russie. Cette fois, Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen d'être soumise au pouvoir russe parce qu'elle n'a toujours pas remboursé l'emprunt contracté auprès d'une banque russe. C'est vrai ou c'est faux, ça, Valentin Boisset ?
Eh bien, techniquement, Marine Le Pen est toujours en train de rembourser cet emprunt de 9 millions d'euros. Tout est cependant en ordre selon la Commission nationale des comptes de campagne. Ce qui est vrai, c'est qu'en 2019, le Rassemblement national n'y arrivait pas et était sous le coup d'une procédure judiciaire russe. Mais depuis, un accord à l'amiable a été trouvé avec le créancier. L'échéancier court maintenant jusqu'en 2028, ce qui n'empêche pas le RN d'être très endetté auprès d'une multitude d'autres créanciers. Marine Le Pen a terminé l'année 2020 avec une dette de près de 24 millions d'euros.
Et puis il y a eu cet échange autour des éoliennes.
Je crois que vous voulez en mettre partout, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, parce qu'il ne faut quand même pas non plus
Madame Le Pen.
Pousser. C'est la réalité. Je suis désolée de vous le dire. Tous ont été actés, sauf celui en face du Touquet.
Et c'est vrai ça, Virginie Garin, pas d'éoliennes en face du Touquet ?
Alors, il y a bien eu un projet de parc éolien là-bas, mais il date de Ségolène Royal. La ministre de l'Environnement de François Hollande avait lancé plusieurs consultations pour construire des parcs en mer. Il y a eu au Touquet une forte opposition d'un collectif dans lequel figurait la fille de Brigitte Macron. En revanche, les deux préfets du département du Nord et Maritime ont rendu des conclusions négatives, donc ont préconisé d'abandonner le projet. Le 7 mai 2017, c'était avant l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
Merci à tous les trois pour ce décryptage fact-checking. Comme on dit, arrêtons-nous à présent sur un autre sujet, celui du pouvoir d'achat face à la flambée des prix. Certains restaurateurs sont aujourd'hui contraints de revoir leurs cartes. Aurélie Avalarié, vous vous êtes rendue dans le quartier de la Bastille à Paris.
Exactement, et j'ai rencontré une dizaine de restaurateurs ce midi, parmi eux Thomas, qui travaille dans la restauration depuis plus de 20 ans.
Tout augmente, oui. Des trucs qui prennent 3, 4, 5, 6 euros le litre en pensant à l'huile. Pas un train d'entrecôte origine France, ça a pris 4, voire 5 euros le kilo. Après, sur la carte, les gens ne comprennent pas si jamais on augmente. Pour l'instant, nous, on serre les fesses, on n'a pas augmenté, on n'a augmenté aucun prix. C'est sûr que c'est notre marge qui diminuait par 2, voire par 3 des fois.
Thomas a fait donc choix de ne pas augmenter ses prix, ce qui n'est pas le cas de la brasserie voisine. Chloé, la serveuse, me détaille tous les changements à la carte.
Tous les prix ont augmenté d'à peu près 5%, notamment sur tous les produits de crèmerie et la viande. Un exemple très simple, et avant le plat du jour il était à 8,90, maintenant il est à 9,50. La suggestion était à 11,80, maintenant elle est à 12,50. Et on a dû par exemple enlever certains plats comme l'entrecôte qui revenait beaucoup trop cher et du coup c'était pas possible.
Alors pour l'instant la terrasse ensoleillée de cette brasserie est encore pleine ce midi, mais Chloé me confiait avoir peur de perdre une partie de sa clientèle si elle devait à nouveau augmenter ses prix.
Aurélia Valarie en direct du quartier de la Bastille à Paris. On en vient à la guerre en Ukraine et Vladimir Poutine annonce avoir mis la main sur Mariupol. La libération de Mariupol est un succès, voilà ce qu'a dit ce matin le président russe. Bonjour Julien Fautra. Cette fois ça y est, la ville est bien tombée.
Oui, le drapeau séparatiste flotte sur le port maritime de Mariupol. Le nom des bataillons qui ont participé à la prise de la ville inscrit dessus. Toute la ville, presque le sous-sol d'un site industriel, est occupé par d'irréductibles soldats ukrainiens. Abri antinucléaire, un dédale de couloirs en béton. Vladimir Poutine demande à ce que ces soldats n'attaquent pas ces souterrains au risque de s'y enliser, mais organiser un siège pour affamer les Ukrainiens qui y sont toujours retranchés. Un blocus autour du site. Pas une mouche ne doit s'en échapper, a déclaré Vladimir Poutine. Mariupol conquis, c'est une grande ville. Le Kremlin va s'en servir comme exemple dans son objectif de dénazifier l'Ukraine. Mais la bataille, plus de 50 jours, ces semaines où la résistance ukrainienne, David a résisté à Goliath, fera partie des livres d'histoire, de l'imaginaire ukrainien sur des générations.
Et Julien Fautra du service étranger de RTL.
Et puis on vous en parlait dès ce matin sur RTL. Le parquet de Grenoble ouvre une enquête auprès de mystérieuses piqûres en boîte de nuit.
Au moins 7 victimes identifiées, parmi elles, cette jeune fille, Zoé.
Vers 1h du matin, je me suis sentie très mal. J'ai vu un voile noir d'un coup et j'ai perdu complètement ma vision et j'ai essayé de sortir et en sortant, je suis tombée par terre. J'ai eu les jambes complètement coupées. Pendant la nuit, j'ai eu très mal à la fesse et à la jambe. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin le lendemain matin qui, elle a vu la trace de la piqûre. C'est juste une petite tache rouge, un petit bouton. Elle m'a dit que c'était vraiment caractéristique d'une piqûre à la seringue. À la fesse droite, en haut de la cuisse, et j'ai rien senti sur le coup. C'est ça qui est dingue.
Le témoignage de Zoé au micro RTL de Serge Pillot, Thomas Proto. Des plaintes ont également été déposées à Nantes et Béziers.
Oui, une cinquantaine en tout au niveau national, mais pour l'instant sans résultat. Aucun auteur de ces blessures n'a été interpellé. Et les enquêteurs s'interrogent sur les motivations des piqueurs, car les victimes n'ont subi ni vol ni agression sexuelle. Elles expliquent avoir éprouvé un malaise plus ou moins prononcé lors d'une soirée en boîte, on l'entendait dans le témoignage, et avoir ensuite découvert la trace de piqûre. Plus intriguant encore, à Nantes, où les investigations sont menées depuis fin février, les analyses de sang et d'urine des plaignants n'ont révélé la présence d'aucune substance toxique connue, en particulier aucune trace de GHB, vous savez, ce liquide parfois versé dans les verres que l'on surnomme la drogue du violeur. Un magistrat se demande même si un produit est réellement injecté, ce qui n'enlève rien aux conséquences extrêmement désagréables, car même si les médecins considèrent comme hautement improbable une contamination par un virus de type sida, VIH. Ils ont placé plusieurs victimes sous trithérapie par précaution. Un traitement évidemment lourd et angoissant.
Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL.
Dans une seconde, est-ce qu'Emmanuel Macron a gagné le débat et est-ce que Marine Le Pen ne l'a pas perdu? Voilà une bonne question. 12h43.
RTL. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud. Présidentielle 2022.
J-3. Je suis pour TVA 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'hygiène ou alimentaire.
Moi, je propose le chèque alimentaire qui touche les ménages qui en ont le plus besoin, qui sont à l'euro près. Pourquoi ? Là, votre baisse de la TVA, elle va aller aux grands distributeurs beaucoup plus qu'aux consommateurs, Madame Le Pen. Et en plus, elle est injuste. Elle est injuste parce que vous et moi, on n'a pas besoin de payer 0% de TVA sur ces biens.
Pendant près de 3 heures hier soir, ils ont échangé, confronté leur programme. À l'arrivée, pas de chaos, ni de naufrage, mais un vainqueur. En tout cas, si l'on en croit ce sondage Elab, Emmanuel Macron a été jugé plus convaincant par 59% des personnes interrogées. Enquête pour BFM TV, L'Express et SFR. Bonjour Bernard Tananès.
Bonjour.
C'est vous qui avez réalisé cette étude, président de l'Institut de sondage Elab. Un mot peut-être d'abord sur la méthode. Qui sont ces Français que vous avez interrogés?
Bien sûr. D'abord, disons-le, ne faisons pas dire aux sondages qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas une intention de vote. Des intentions de vote, il va y en avoir aujourd'hui, demain, etc. Là, nous prenons un panel, plus de 3000 personnes, un échantillon représentatif de Français. Et sur cet échantillon représentatif, nous demandons à des gens si on peut les appeler après l'émission, après le débat. Donc, il devait être hier 23h45 et 700 personnes ont répondu à notre question. Qui avez-vous trouvé
le plus convaincant? Que des gens qui ont regardé le débat.
Tout à fait, tout à fait. Puis, à 23h45...
Au mieux préciser, parce que vous bougez la tête.
Bien sûr, non mais vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, par exemple, un autre sondage peut donner des chiffres différents. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet machine à café, l'effet de halo, il y a l'effet d'auditeurs qui ont pu écouter tel éditorialiste, tel commentaire, telle réaction. Là, c'est une mesure à chaud. Voilà. Prenons-le comme une mesure à chaud.
Il y a quelque chose qui ressort chez ceux qui n'aiment pas fort Emmanuel Macron, c'est la suffisance ou l'arrogance. Est-ce que ça ressort dans votre enquête?
Oui, alors il y a des thèmes sur lesquels, des traits d'image, comme on dit, sur lesquels Macron a l'avantage, d'autres sur lesquels Le Pen a l'avantage, je pourrais vous les citer si vous voulez, et puis il y a deux sujets sur lesquels tous les deux n'arrivent pas à corriger ce qui apparaît comme des défauts d'image. Pour Emmanuel Macron, c'est effectivement ce sentiment d'arrogance. Plus d'un téléspectateur sur deux hier nous dit qu'il trouve qu'Emmanuel Macron est plus arrogant que Marine Le Pen. Mais, si on veut être tout à fait juste et équilibré, un téléspectateur sur deux dit que Marine Le Pen les inquiète plus qu'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est des items que l'on observe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et que le débat n'aura visiblement pas réussi à faire bouger. Alors,
c'est dans la même tendance que ce que vous observez auparavant.
Tout à fait, quasiment.
Mais vous ne répondez pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il est plus arrogant qu'elle, ça ne veut pas dire qu'il est arrogant, vous voyez.
Non, mais alors, sur la question d'hier, c'était le match, donc on testait le match. Mais quand on pose la question, j'allais dire à froid, uniquement sur Emmanuel Macron, effectivement, il a, depuis plusieurs mois, effectivement, ce qualificatif, cette étiquette qui lui est accolée.
Alors, quand on regarde dans le détail, effectivement, il y a un certain nombre d'items. La capacité, les qualités pour être président, être le plus capable de rassembler les Français, le plus dynamique à chaque fois. Là, c'est Emmanuel Macron qui arrive, qui arrive en tête. Et Marine Le Pen, elle est jugée plus proche des préoccupations des Français. Plus sincère, ils sont quasi à égalité. Finalement, tout ça, c'est des choses qu'on observait déjà avant le débat. Ça veut dire que ce débat-là n'a pas changer quoi que ce soit?
On va dire que, comme toujours, comme souvent, un débat peut affiner, rectifier, mais il ne peut pas inverser des dynamiques. Sur la présidentialité, c'est vrai que Emmanuel Macron, sur les qualités nécessaires pour être président de la République, est nettement devant Marine Le Pen. C'était déjà le cas après le débat de 2017, c'était le cas pendant le quinquennat, ça a été le cas hier. En revanche, il s'est passé quelque chose là au profit de Marine Le Pen. C'est le seul item, je m'excuse, que vous n'avez pas cité. C'est la capacité à incarner le changement. À qui, pense-t-on, peut faire le plus changer les choses? Et là, alors qu'en 2017, forcément, j'allais dire, Emmanuel Macron incarnait le changement. Hier, très nettement, pour les téléspectateurs, c'est Marine Le Pen qui incarnait le changement.
Mais alors, au vu de tout ça, vous diriez qu'Emmanuel Macron a gagné ce débat, que Marine Le Pen ne l'a pas perdu?
Alors, je vous dirais d'abord, si on commence par Emmanuel Macron, je pense qu'il a marqué des points hier, alors qu'il avait beaucoup à perdre, parce qu'il avait un bilan à défendre. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a mieux défendu son bilan que vendu son projet. Voilà.
Mais a été peu attaqué en même temps Marine Le Pen, et c'était une surprise.
Effectivement, je reviendrai si vous voulez juste après. Mais qu'il n'a pas réussi à faire le trou comme il l'avait fait en 2017. Marine Le Pen réussit à effacer la contre-performance de 2017, mais elle avait besoin, elle, d'inverser le résultat. Elle avait besoin un peu de renverser la table. Et je vous rejoins, c'est vrai que c'est assez surprenant, finalement, que les offensives sur le bilan n'aient pas été plus fortes de Marine Le Pen, notamment sur la question du pouvoir d'achat. Premier thème, j'allais dire, elle commençait avec, elle avait la main. C'est le thème de préoccupation des Français, celui sur lequel elle est jugée le plus crédible.
Et Macron disait que c'était sur celui-là qu'ils avaient peur.
Moi, j'ai eu le sentiment, pendant ce débat, là, c'est une remarque personnelle, je sors de mes chiffres, que finalement, Marine Le Pen cherchait davantage à battre Marine Le Pen de 2017 qu'à battre Emmanuel Macron. Elle voulait absolument faire oublier le Marine Le Pen 2017. Je pense que c'est en partie réussi.
C'est une bonne formule et beaucoup ont eu sans doute ce sentiment à travers, par exemple, un sujet qui est le sujet McKinsey, sur lequel elle est peu intervenue, alors que ça aurait pu être un sujet polémique pour elle. Et il y avait, comme on dit, du gras à faire là-dessus. Elle ne s'en est pas servie.
Non, elle ne s'en est pas servie, sans doute par une volonté aussi de lisser son image, de ne pas apparaître comme trop offensive, agressive, avait-on dit en 2017. Et puis il y a des sujets sur lesquels Emmanuel Macron a été lui offensif, sur lesquels elle a réussi à se défendre. Par exemple, nous faisions vivre également une communauté de téléspectateurs qui réagissaient au fur et à mesure du débat sur l'attaque sur le banquier russe. Finalement, Marine Le Pen, déjà les gens sont partagés. Est-ce que Emmanuel Macron aurait dû le faire ou pas le faire? Ils sont partagés. Mais deuxièmement, ils trouvent que Marine Le Pen était bien préparée. Donc elle n'a pas marqué beaucoup de points sur ces thèmes où elle aurait pu être forte. Elle a plutôt corrigé des faiblesses sur les thèmes sur lesquels elle était plus faible. C'est également le cas, par exemple, sur l'environnement.
Bernard Sananès, vous disiez c'est des réactions recueillies à chaud juste après ce débat et il faut attendre un peu l'effet machine à café, ce qu'écoutent les gens, etc. À partir de quand est-ce qu'on va pouvoir mesurer via les intentions de vote l'effet débat ou pas?
Bah écoutez, à part demain, les derniers sondages devront ou pas avoir ces évolutions. En 2017, cela avait été très net. L'écart s'était stabilisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron avant le débat. Il s'était à nouveau écarté dans les dernières heures. Et puis, évidemment, il y a l'effet sur le scrutin de dimanche. Mais disons-le, quand on regarde un débat comme cela, on ne passe pas d'Emmanuel Macron à Marine Le Pen ou de Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Voilà. On est plutôt dans des électeurs qui avaient choisi de s'abstenir et qui disent bah, finalement je vais aller voter pour l'un ou pour l'autre, ou à l'inverse, des gens qui disent j'avais plutôt l'idée de voter Macron-Le Pen et finalement je vais voter blanc, je vais m'abstenir.
Emmanuel Macron a gagné, Marine Le Pen n'a pas perdu, mais le grand vainqueur du débat, vous ne l'avez pas donné, monsieur Sananen. C'est Gérard Majax. C'est lui, l'immense vainqueur.
Beaucoup de...
C'est
drôle. Redécouvrir Gérard Majax.
Mais oui, parce qu'il y en avait plein aussi qui ne savaient pas qui était Gérard Majax parmi les
Majax,
plus jeunes.
Gérard Majax, c'est pas Gérard Majax ce soir, a dit le président de la République. Donc Gérard Majax, je crois qu'il est intervenu d'ailleurs sur l'antenne d'RTL. Il a eu 50 coups de fil depuis hier soir et pourquoi pas des nouveaux contrats. Gérard Majax, qui était une star des années 70 de la magie. Je crois à la magie. Il est 12h52, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Et comme promis, donc on vous emmène à Londres. Qu'est-ce que vous avez dit?
Madame, monsieur, bonsoir. Quand j'entends le Save the Queen, j'ai dit madame, monsieur,
d'accord,
bonsoir.
On va partir pour Londres. Retrouver Marie Billon, Londres où la reine fête donc ses 96 ans. Marie, vous êtes la correspondante de RTL sur place, tout près du château de Windsor, où donc d'ici quelques minutes, les traditionnels coups de canon seront tirés.
Et oui, il y a déjà une belle foule qui attend sous le soleil et quelques soldats en habits d'apparat. Alors beaucoup des badauds qui sont là étaient au courant de cette tradition qui est quand même bien bruyante. Mais s'ils n'étaient pas au courant, il y a eu un crieur public qui a rameuté la foule juste après la parade militaire et musicale qui a eu lieu il y a une petite heure devant le château.
Oh yeah, aujourd'hui nous célébrons le 96e anniversaire de la reine Elisabeth II. Nous vous invitons tous à assister aux 21 tirs de canon en l'honneur de Sa Majesté.
Alors les coups de canon sont tirés sur ce qu'on appelle le Long Walk, c'est la longue allée dans le parc royal qui mène au château. Le premier coup sera tiré par le maire de Windsor, les autres seront tirés par des enfants de la région. Alors il faut dire que même s'ils font beaucoup de bruit, ce sont des petits canons dont certains dateraient des guerres napoléoniennes, c'est ce qu'a dit le crieur public. Mais bon, peu importe, pour les sujets de Sa Majesté, coups de canon ou à tue-tête, ils sont là pour dire ou bien chanter joyeux anniversaire à la reine.
Et ce sera dans 5 petites minutes à 13h, heure française. Marie, vous restez avec nous. Bonjour Thomas Pernette.
Bonjour.
Et vous êtes journaliste au magazine Point de Vue, spécialiste des têtes couronnées. On s'est beaucoup inquiété ces dernières semaines, ces derniers mois, autour de l'état de santé de la reine. Il y a eu ce Covid, le décès de son époux aussi. Comment va-t-elle aujourd'hui?
Écoutez, elle va mieux. On a même eu une photo hier diffusée par Buckingham, une photo pour son anniversaire, entourée de deux poneys blancs, assez mignonnes. On dirait que la reine vit à Disneyland aujourd'hui. Alors cette photo a été prise il y a un mois. Vous me direz, c'est pas très rassurant, mais en effet, il y a un mois, on se faisait encore plus de soucis. Elle avait annulé tous ses engagements officiels et on l'a vu fin mars à la messe en hommage à son époux le prince Philippe. Donc elle va bien. C'est une journée qui est quand même particulière, son anniversaire, parce que pour nous un anniversaire c'est un moment de fête, mais elle c'est aussi le jour de la mort de son père. Et bien sûr elle le passe dans la plus stricte intimité sur le domaine de Sandringham.
Elle a 96 ans, sa mère était décédée à 101 ans, donc ça lui laisse de la marge.
Les Windsor ont de bons gènes.
Non, il n'est toujours pas question d'abdiquer, de...
Ah non, ça, vous savez, la reine mourra le plus tard possible et mourra sur le trône. Elle l'a dit en 1947 à 21 ans dans son célèbre discours « Que ma vie soit courte ou longue, je servirai le Royaume-Uni et le Commonwealth ». Force est de constater que cette vie est longue. Alors ce qui va se passer, c'est que bien sûr, la famille royale va prendre de plus en plus de poids, de place. Et c'est déjà le cas avec le prince de Galles, son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles. Harry et Meghan malheureusement sont partis, mais il y a tout un tas de petits-enfants, de cousins et de cousines qui prennent des responsabilités. Finalement, c'est une régence qui ne dit pas son nom.
Et notamment Charles reçoit désormais chaque jour ou chaque semaine ce qu'on appelle les boîtes rouges, qui sont les documents secrets du gouvernement, alors que c'était sa mère qui recevait en priorité. Aujourd'hui, il est associé manifestement à ces secrets-là.
Tout à fait, Pascal. Ces boîtes rouges, ces documents, ces papier d'État, comme on les appelle, c'est en fait tous les documents qui viennent de tous les ministères du Royaume-Uni, mais même de l'ensemble du Commonwealth. C'est grâce à ça que la reine est informée de tout ce qui se passe dans son royaume. D'ailleurs, elle a une réputation de bûcheuse, elle l'est. Et c'est de coutume, bien sûr, que l'héritier du trône soit associé. Et là, il est plus qu'associé, puisqu'il a accès à ces informations.
C'est vrai que Ludovic van der Kerkhove me rappelle à l'instant, j'ai été surpris, parce que vous disiez tout à l'heure, le 21 avril, c'est aussi un jour triste, parce que c'est le jour d'anniversaire de sa mort. Et j'avais été surpris quand vous aviez dit cela, mais George VI était mort en février. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, l'anniversaire de ses 96 ans. Ça ne coïncide pas avec le jour de la mort.
C'est vrai, mais vous savez, je suis tellement pris dans les célébrations du jubilé et j'ai tellement envie d'y être que j'en viens à confondre les heureux anniversaires et les malheureux anniversaires.
Voilà, il y a l'anniversaire effectivement de son règne, qui est lié évidemment à la mort de son père, et son anniversaire classique, qui effectivement n'a pas le même rapport.
Et parce qu'il y a plusieurs célébrations, Marie, le gros des festivités, ce sera en juin, on le rappelle.
Oui, ce sera en juin, ce sera du 2 au 5 juin, c'est là qu'il y aura la vraie parade militaire, c'est là qu'il y aura une fête à Buckingham Palace, c'est là où il y aura surtout cet immense déjeuner où il y aura des dizaines de personnes devant Buckingham Palace et puis aussi ces fêtes de rue dans tout le Royaume-Uni. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va fêter la reine. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que la reine, donc bien sûr, elle a deux anniversaires normalement. Elle a aujourd'hui, le jour où elle est née, il y a l'anniversaire officiel qui est toujours le deuxième samedi de juin. Ça, c'est le cas depuis 1748 parce qu'ils sont...
Marie, je vais vous arrêter deux secondes parce qu'on ne veut pas rater les coups de canon pour tout vous dire. Donc on marque une pause et nous revenons à l'instant.
RTL. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Marie Bidon, en direct d'Angleterre, les coups de canon sont annoncés dans quelques secondes, Marie.
Oui, et là vous entendez peut-être la foule chanter « Joyeux anniversaire à la reine ». Je ne sais pas si vous avez entendu.
Si, mais on a entendu.
Mais nous l'entendons et nous partageons cette émotion.
Petit applaudissement et puis les coups de canon effectivement vont arriver d'ici quelques secondes normalement. Attention, ça va être fort. Là, je suis en train de voir quelqu'un en habit de cérémonie rouge s'approcher avec quelque chose qui va certainement allumer le canon. Alors c'est le maire de Windsor. Attention, ça va arriver.
Et combien de coups de canon il y aura ?
21
coups de canon. Le maire de Windsor est en train de se pencher vers le canon. Ça fume. Et voilà le premier.
Alors on va peut-être pas écouter les 21, mais en revanche, celui-là était intéressant.
Celui-là était intéressant, c'était donc le maire de Windsor qui l'a lancé. Et puis maintenant, ça va... Alors ça devait être des enfants, mais je vois un adulte tout simplement s'approcher du deuxième canon. Il y en a 21 différents et certains seront tirés par des petits-enfants, évidemment supervisés par des gardes en habit de falbala rouge et noir.
C'est quoi un habit de falbala ?
Alors c'est par exemple le crieur public qui a une redingote qui date du XVIIIe siècle, ou bien des soldats qui sont affiliés au château de Windsor qui ont une redingote noire et rouge. C'est tout simplement en fait des habits qui mettent pas tous les jours, mais qui mettent pour les jours de fête. Et aujourd'hui c'est un jour de fête.
Merci de cette précision.
Et là je vois la première petite fille s'approcher du canon, donc on va voir si ça se passe bien.
Merci beaucoup Marie en direct de Londres. Thomas Pernette, la reine elle est plus que jamais populaire. Au Royaume-Uni, en France aussi ici.
Partout dans le monde, mais oui, en France notamment. On a découvert hier qu'il allait même avoir une Barbie Elisabeth II. Une Barbie Elisabeth II, c'est ce que vient d'annoncer Mattel. Alors, on ne sait pas si les mensurations très critiquées de la poupée Barbie seront les mêmes pour la reine, mais je suis sûr qu'en France, les petites filles vont se l'arracher. D'ailleurs, on l'a vu lors des visites d'État, la dernière en 2014 à Paris, on entendait dans les rues de Paris « Vive la reine, vive la reine ».
Mais comment vous l'expliquez ? Parce que 96 ans, on pourrait se dire « Bon, c'est une vieille dame et... »
Deux choses. D'abord, je pense que les Français sont monarchistes. On adore parler finalement, des ors de Versailles, on adore tout ce qui est dîner d'État à l'Élysée, et peut-être qu'on regrette un peu d'avoir coupé la tête à Louis XVI. Et puis, il y a aussi ce symbole de longévité. Probablement, je ne suis pas royaliste.
Je ne suis pas sûr qu'il soit partagé par tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a cette tentation.
Tout à fait, on aime ça. On aime, on aime ce décorum. Oui. Et puis, bien sûr, il y a aussi cette longévité. La reine est un roc depuis 70 ans et plus. On a tous connu la reine, nos parents ont connu la reine, nos grands-parents ont connu la reine. Dans ce monde, pardon de le dire, plein d'incertitudes, elle rassure, bien sûr.
Bon, c'est le seul chef d'État vivant qui a quand même connu la Seconde Guerre mondiale, ce qui est bien absolument sûr extraordinaire. Elle a eu Winston Churchill comme Premier ministre, ce qui paraît fou. Sa dernière intervention publique, c'est donc à Westminster pour l'hommage à son mari. Et ça m'avait étonné parce qu'elle était au bras de Andrew. Andrew, ce fils, quand même, aujourd'hui, qui est dans une affaire très compliquée. Il est accusé quand même de pédophilie.
C'est sans doute.
De détournement de mineurs.
C'est sans doute. Alors, le procès s'est terminé au civil par un accord avec la plaignante. Mais c'est vrai que c'est la fausse note de ces cérémonies, la voir arriver au bras d'Andrew. D'ailleurs, on dit que le prince Charles et le prince William ont été furieux. Et qu'Andrew, pour essayer de revenir sur le devant de la scène, en fait, vivant sur le domaine de Windsor, est allé chercher sa mère. Et c'est donc imposé au premier plan, et malheureusement ça a donné la tonalité à ce qui n'aurait pas dû être. Ce devait être une messe entièrement pour Philippe, et on a beaucoup voire trop parlé d'Andrew.
Mais ça veut dire accusé qu'elle contrôle moins de choses.
Je disais détournement de mineurs, c'est viol.
Elle contrôle moins de choses qu'elle n'a pu le contrôler, parce que ça, typiquement, elle aurait sans doute pas fait cette erreur, on va dire ça comme ça, il y a quelques années, non ?
Malheureusement, c'est difficile d'être aujourd'hui dans les cercles, les premiers cercles du pouvoir, mais il y a 96 ans, c'est certainement, on est moins alerte qu'à 90, 80 ou même avant. Et il y a certainement, oui, des luttes, des rivalités au sein de la famille royale, et cette affaire bis Andrew à Westminster le montre.
Elle vit à Windsor.
Elle vit à Windsor, elle ne reviendra plus à Buckingham. Buckingham est en chantier, mais surtout Windsor, c'est sa vraie maison. Finalement, elle y a passé beaucoup de temps, et c'est là notamment qu'elle a passé la guerre.
Merci beaucoup Thomas. À l'occasion des 96 ans de la reine et pour tous les événements liés à Elisabeth II, RTL s'associe donc au magazine Point de Vue. RTL lance une grande série de podcasts, 8 podcasts qui vont vous raconter le règne d'Elisabeth, la grande et la petite histoire racontée par les journalistes de Point de Vue. Le premier épisode est diffusé depuis aujourd'hui. Ce sera tous les jeudis, il y en a un par semaine. Je crois que vous avez fait le 3 Thomas, autour des chapeaux notamment de la reine, c'est ça ?
Oui, les chapeaux de la reine, c'est mon dada. J'espère qu'il vous plaira.
Bah, écoutez, là en tout cas il y a du travail. Thomas Pernet qui sera là avec nous à 14h. Je remercie également Marie Bilon et nous entendons toujours égrener le nombre de coups de canon. Et nous allons marquer une pause, mais c'est l'occasion de saluer toute l'équipe de RTL Midi. Je vois que ce Ludovic Van de Kerckhoff est là. Il assure la rédaction en chef de ce 12h30. Bravo à Amandine, puisque le journal est en augmentation de plus en plus d'auditeurs qui vous écoutent. Bien évidemment, Sophie Orange était là également, qui participe régulièrement. Allez là.